RFI, les 22h, ici à Paris, 21h, en temps universel.
Martin Guez.
Et à la une, des premières évacuations depuis Mayotte vers La Réunion. Mayotte, où Emmanuel Macron se rendra dans les jours à venir, il y décrétera un deuil national. Le département français de l'océan Indien, privé d'eau et d'électricité, est soumis au pillage. En Syrie, Bachar al-Assad a fui vers Moscou il y a 8 jours. Et les soldats russes, encore présents en Syrie, commencent à être évacués. En Europe, l'UE et les États-Unis prennent des sanctions contre le régime géorgien, qui réprime sévèrement les manifestants pro-européens. Et puis dans 10 minutes, vous retrouverez Radio Foot International alors qu'Ademola Lookman vient de remporter le Ballon d'Or africain 2024. Après le passage du cyclone Chido, place au jour d'après à Mayotte. L'archipel de 320 000 habitants a été dévasté, difficile d'estimer un bilan humain exact. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau, qui s'est rendu sur place, se dit ce soir incapable de se projeter et décrit une île complètement dévastée. Mayotte coupée du monde, sans électricité et sans eau. Et sans électricité, les pilleurs s'en donnent à cœur joie, de quoi renforcer le sentiment d'insécurité chez les habitants. À l'image d'Ulrich Maoré, vivant sur la commune de Combani, au centre de l'île, qui décrit une localité coupée du monde et un climat de peur qui s'installe.
Étant donné qu'il n'y a pas de courant, donc la nuit, c'est la nuit noire. Il y a des jeunes qui s'introduisent dans les maisons, qui pillent. Ils ont commencé à piller les magasins. C'est nous qui faisons la sécurité, quoi. Il commence à avoir des gens qui rôdent, qui font du repérage. Donc on essaie de se mobiliser, les habitants, pour faire en sorte d'avoir une présence pour les dissuader. Mais après, une fois que la nuit est tombée, c'est nuit noire, hein, y a aucune lumière. Et puis même allumer une lampe torche, c'est même risqué, dans le sens où vous êtes visible. C'est ça qui est vraiment compliqué. Donc en espérant que la situation, au moins avoir peut-être de l'eau en premier lieu, de l'électricité par la suite, ça serait bien, mais vraiment de l'eau. Là, on va essayer de trouver de quoi faire tourner le groupe, au moins aujourd'hui ou demain, le temps que la situation, on va dire, s'améliore, si elle s'améliore. Puis après, on va retourner sécuriser les habitats et aider les gens qui sont autour de nous, étant donné qu'on est livré à nous-mêmes, donc on essaie de faire au mieux.
Des propos recueillis par Lola Fourmi. Le président français Emmanuel Macron parle ce soir d'une tragédie et annonce se rendre à Mayotte dans les prochains jours. Un deuil national sera décrété face à cette tragédie, a-t-il annoncé. Le bilan officiel est de 21 morts à l'hôpital, mais le préfet local redoute plusieurs centaines de victimes et a mis sur pied une mission de recherche des corps. Ce soir, les États-Unis se disent prêts à aider Mayotte en offrant une aide humanitaire. Et aux Comores voisines, le président Assoumani Azali a décrété un deuil national d'une semaine. Autre grand titre de l'actualité internationale de ce lundi 16 décembre, ce sont ces déclarations de Bachar el-Assad qui sort du silence 8 jours après sa chute. « Mon départ de Syrie n'était pas planifié », a-t-il déclaré. Dans un communiqué, l'ancien chef d'État syrien affirme qu'il n'a fui le pays qu'après la chute de Damas et a qualifié les nouveaux dirigeants du pays de terroristes. La Syrie où les militaires russes alliés de Bachar el-Assad commencent à quitter le territoire. Moscou a annoncé le retrait de ses forces militaires sur les lignes de front dans le nord du pays et dans les montagnes alaouites. Mais une question subsiste quant à l'avenir de 2 bases militaires sur la côte méditerranéenne. À Latakié, une base aérienne a été encerclée par les combattants HTS. Reportage sur place de notre envoyé spécial Manon Chaplin.
Depuis 10 jours, la base aérienne russe a mis et cadenassé. Des combattants HTS en treillis, Kalachnikov sur l'épaule, gardent chaque point d'entrée. L'ordre a été donné de ne laisser personne ni sortir ni entrer. Zakaria Harir, combattant HTS, suspecte les Russes de se préparer à évacuer.
Aucun d'entre eux n'est sorti par ici. Ils sont toujours à l'intérieur. Certains soldats du régime, les traîtres, sont avec eux. D'autres se sont enfuis avant que nous arrivions. Ils ont déposé leurs armes et leurs dernières balles à l'entrée.
Selon des images satellites prises vendredi, 2 avions cargo seraient en train d'être chargés. Au-dessus de l'aéroport, un ballon dirigeable a été déployé, des caméras de surveillance accrochées. Ahmed observe tout depuis chez lui. Sa maison est à 100 mètres.
L'aéroport continue d'être très actif. Il y a des avions qui décollent presque tous les jours. Je pense que c'est pour évacuer les militaires. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il se passe, mais pour sûr, il y a beaucoup d'activités à l'intérieur.
Ici, la base militaire était surnommée la voie de la mort. Des avions partaient presque tous les jours pour bombarder Idlib, poche rebelle des islamistes HTS opposés au régime. L'aéroport était aussi une base stratégique majeure pour les opérations militaires et mercenaires de la Russie en Afrique.
Nous étions épuisés par les bruits de la guerre. C'est beaucoup plus calme depuis 5 ou 6 jours et nous vivons beaucoup mieux depuis. Mais nous avons peur que cela recommence et qu'il y ait le chaos ici.
Cette semaine, le Kremlin a annoncé que la Russie était en négociation avec les nouveaux dirigeants syriens pour parler de l'avenir de ses bases militaires dans le pays. Manon Chaplin à Latakié, RFI.
L'actualité en Syrie que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. RFI 22h05 à Paris et à Yaoundé, au Cameroun. Le président Paul Biya a appelé ce lundi à une action urgente face à la situation économique préoccupante de la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, dont une session extraordinaire s'est ouverte aujourd'hui dans la capitale. Aucun ajustement monétaire n'est cependant envisagé, alors que la rumeur d'une dévaluation du franc CFA se faisait insistante. Un sommet qui s'est ouvert sans les présidents du Tchad et de la République du Congo. Cette réunion de la CEMAC, sur laquelle nous reviendrons dans la dernière édition d'Afrique Soir, rendez-vous à 22h30, temps universel, avec Charlotte de Rouen. Au Canada, la vice-présidente Chrystiane Freeland a démissionné et fait direct des menaces de Donald Trump d'augmenter les taxes douanières qui doivent passer à 25% entre les États-Unis et le Canada. 75% des exportations canadiennes partent chez son voisin. Chrystiane Freeland qui a expliqué sa démission en raison de divergences avec le président Justin Trudeau sur la façon de gérer cette guerre tarifaire selon ses mots. Démission qui intervient quelques heures avant de présenter au Parlement le bilan économique de son pays qui devrait montrer un déficit budgétaire beaucoup plus important que prévu. L'actualité en Europe est l'Union européenne qui veut prendre des sanctions contre le rêve géorgien et contre ses dirigeants. Le parti au pouvoir en Géorgie, qui réprime sévèrement le mouvement de contestation pro-européen. Ce soir, pour le 19e jour consécutif, quelques milliers de Géorgiens se sont réunis près du Parlement après des élections législatives jugées truquées et illégitimes fin octobre. Un nouveau président pro-russe et pro-régime, l'ancien footballeur Mikhail Kavelashvili, a été nommé à la tête du pays ce samedi. L'UE, de son côté, qui envisage donc de suspendre les voyages sans visa pour les diplomates géorgiens notamment. C'est ce qu'a évoqué tout à l'heure la vice-présidente de la Commission européenne, Kaya Kallas.
Aujourd'hui, nous avons convenu de la nécessité de suspendre le régime d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques. La Commission présentera une proposition dès cette année. Nous avons également discuté des sanctions contre les fonctionnaires géorgiens qui sont à l'origine des violences commises à l'encontre des manifestants pacifiques. À l'avenir, nous continuerons à soutenir le peuple géorgien, notamment en réorientant les financements des autorités vers la société civile et le peuple géorgien, les médias indépendants, car l'avenir de la Géorgie, comme c'est le cas en Syrie pour les Syriens, c'est au peuple géorgien de décider de ce que l'avenir peut être.
Et ce soir, les États-Unis disent eux aussi préparer de nouvelles sanctions contre la Géorgie, alors que le pays a décidé de suspendre jusqu'en 2028 toute négociation d'adhésion à l'Union européenne. Et on termine en Allemagne, où les élections anticipées devraient avoir lieu le 23 février 2025. Après la rupture de sa coalition début novembre, le chancelier Olaf Scholz ne dispose plus de majorité. Le chef du gouvernement qui a posé le vote de confiance ce lundi au Parlement afin de le perdre. Ce résultat lui a permis dans la foulée de demander au président de la République de dissoudre le Bundestag. Correspondance de Pascal Thibault.
Un sabotage de la part du Parti libéral. Son président Christian Lindner, ministre des Finances, jusqu'à son limogeage par Olaf Scholz début novembre et qui écoutait le discours du chancelier comme simple député, s'est vu reprocher de manquer de maturité morale. La campagne électorale est clairement ouverte. Olaf Scholz s'est d'ailleurs adressé depuis le Parlement directement aux électeurs.
Je sais que la confiance dans notre coalition a souffert ces dernières années. Les disputes nombreuses entre nous ont été contre-productives. Mais critiquer en permanence, se plaindre ou abandonner, ça n'a jamais amélioré les choses.
Le chancelier a plaidé pour les investissements, pour moderniser l'Allemagne et pour la défense des réformes sociales. Son challenger, le favori des sondages, le président du Parti chrétien-démocrate, Friedrich Merz, a dressé un bilan au vitriol de l'action d'Olaf Scholz et de son gouvernement.
Avec vous, ce pays est confronté à l'une des pires crises de l'après-guerre. Monsieur le chancelier, vous avez eu votre chance, vous ne l'avez pas saisie, vous ne méritez pas la confiance.
Olaf Scholz n'a obtenu que les voix du groupe parlementaire social-démocrate et a clairement, comme prévu, perdu la question de confiance. Il s'est rendu immédiatement à la présidence de la République. Le chef de l'État, Frank-Walter Steinmeier, doit prendre la décision de dissoudre le Bundestag. Des élections anticipées sont prévues le 23 février. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et on finit avec les CAF Awards et le Nigérian Ademola Lookman qui succède à son compatriote Victor Osimhen. Lookman, ballon d'or africain 2024 après son triplé en finale de la Ligue Europa avec l'Atalanta Bergame et sa finale de Cannes perdue face à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire désignée meilleure équipe africaine de l'année. Emers Faye, meilleur entraîneur. Et puis chez les femmes, la Zambienne Barbara Benda a été désignée meilleure joueuse de l'année du foot toujours sur Radio France Internationale avec Radio Foot International.